There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De Chavannes cherche copain. Mais c'est quoi ce truc?
Bah, c'est quoi ce truc? Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Alors, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Ouais. De Chavannes cherche copain. Des copains. De Chavannes cherche copain. A tout de suite, les amis. Est-ce que vous voulez bien avoir la gentillesse de vous présenter à ceux qui nous écoutent, puisque vous venez de.
Ah, ça a commencé là?
Ah, c'est pardon génial. Ah bah ça, on va même garder ça. Hein. vous voulez de l'eau qui pique ou de l'eau normale?
De l'eau qui pique, si
vous. De l'eau qui pique. Oui, présentez-vous un petit peu, parce que moi, je ne vous connais que par oui-dire, hein, évidemment. Je ne vous connais pas personnellement. Oui. Même si je lance un peu le sujet pour ceux qui nous écoutent, et que je salue, hein, évidemment, parce que je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est très agréable, Christian. Parce que c'est votre prénom. Hein.
Oui, exactement.
Après, je donnerai
votre
nom. Ça
commence bien.
Moi, il y a une douzaine d'années, au moins, je commençais à parler dans les émissions de jeux, qui n'a rien à voir avec ça, parce que je suis un peu sensible aux choses un peu humanitaires, on va dire. Sortez couverte, ça, j'imagine que ça vous parle.
Exactement.
Voilà. Et donc, j'ai parlé des cafés suspendus à l'époque. Il y en avait quelques-uns. Après, c'était passé à la baguette suspendue. D'accord. Et vous, Christian Delachaye, en un mot, vous avez un resto à Paris.
Ouais.
Qui s'appelle ?
Le Wanted Café.
Le ?
Wanted Café.
Wanted Café, faut être bilingue.
Ouais.
Ça, c'est... Moi, quand j'étais petit, je disais Wanted, c'est quand on voit dans Lucky Luke. Il y en a qui le disent, le Wanted Café.
Exactement.
Et c'est bien parce que vous faites carrément des repas suspendus.
Ouais, exactement.
Complet. Alors, on va expliquer quand même le truc. C'est que, grosso modo, un gars comme moi qui a des thunes, je viens becter chez vous, je viens déjeuner ou dîner chez vous avec des amis. Nous payons un certain prix qui n'est pas
majoré, enfin un prix normal.
Oui,
quoi.
Voilà. Et avec ce prix normal, vous arrivez à faire en sorte que certains ou certaines qui n'ont pas d'argent puissent venir manger chez vous les choses que nous dégustons de la même qualité sans payer une thune.
Exactement.
Voilà. Racontez-moi
c'est
ça.
C'est résumé. Alors. Merci. Bonsoir. Bonne soirée.
Au revoir. Le podcast, c'est fini.
Voilà. Non, mais c'est exactement ça. En fait, nous, on a 95% de clients qu'on dit clients avec pouvoir d'achat et 5% de clients qui sont sans pouvoir d'achat. Et on a différents moyens de financer les repas suspendus. En fait, on fait repas et café suspendus.
D'où vient cette expression suspendue?
Ah, ça vient de Naples. Ça vient du café Sauce Pesso. Et à l'époque, c'était dans les quartiers pauvres de Naples où les gens laissaient unir ou la monnaie locale, en tout cas, sur le comptoir pour que des gens puissent rentrer et prendre un café.
Et moi, à l'époque où j'en parlais, il y avait des boulangeries où vous payiez deux baguettes pour en avoir une.
Exactement.
Et le prix de la deuxième servait à quelqu'un qui n'avait pas d'argent.
Exactement. Alors, en fait, il y a deux façons de voir le suspendu. La première façon, c'est de penser qu'on lutte contre la précarité alimentaire et après, la deuxième façon, c'est aussi de se dire qu'on lutte contre l'isolement, l'exclusion. Et c'est l'idée de Naples, en fait, des cafés, c'était surtout ça. C'était de dire, il y a un gars qui peut venir au comptoir, se poser, boire son café, discuter avec le cafetier, discuter avec ses voisins de table. Et en fait, c'était plutôt pour lutter contre l'exclusion. Et nous, on fait les deux, précarité alimentaire et exclusion. Mais
oui, parce qu'il mange à table, quand même.
Exactement. Alors, en fait, nous, la base de notre concept, c'est de dire qu'aujourd'hui, la ville, bah, en fait, elle nous divise. C'est-à-dire, aujourd'hui, les villes, elles sont pas faites pour rassembler, sont très dures. Et on n'a plus d'espace commun aujourd'hui. Et donc, nous, en fait, on a commencé notre activité par créer une grande communauté sur Internet qui s'appelle Wanted Community. C'est une communauté où les gens se parlent et s'entraident au quotidien. Et, elle regroupe maintenant.
Qui a combien de personnes?
1 million de personnes. Ouh. 1 200 000. Ouais, c'est gros. On a gagné une récompense par Facebook. On a été élu communauté la plus impactante en Europe sur leur
Super.
Plateforme.
Super. Elle est sur Facebook, donc.
Elle est sur Facebook.
Wanted Community.
Exactement. Et donc, nous, ça, c'était des espaces digitaux où les gens s'entraidaient. En fait, nous, on s'est dit, mais est-ce qu'on créerait pas les mêmes endroits dans la vraie vie? où nous aussi, on pourrait aider des gens. Et du coup, est venue tout de suite l'idée du bistrot où on crée du lien.
Vous faisiez quoi avant ?
Moi, j'étais avocat pendant 6 ans chez Ernst & Young à La Défense, dans une tour au 30e étage.
Et ah, c'est drôle.
Je faisais de l'optimisation, enfin, pas de l'optimisation fiscale, je faisais de la fiscalité à l'international.
Ouais.
Non, c'est pas vrai. En plus, non, mon travail, c'était de faire en sorte que les gens payaient des impôts au bon endroit.
Ok.
Mais voilà.
Enfin, vous étiez en costume cravate, quoi.
Exactement. Et donc, du coup, bah, maintenant, c'est cliché. J'en avais marre. Tout ça,
c'est ouf, ça. Mais c'est pas cliché. C'est beau, je trouve.
Bah, ça ressemble un peu à Julien, que vous connaissez, du coup, et qui lui avait.
Julien
Mémon de Linky, qui lui aussi était ambassadeur, je crois. Enfin, en tout cas.
Oui, enfin, il était dans les cabinets.
Ouais, exactement.
De gens haut placés, ouais.
Voilà. Et
donc, c'est-à-dire que toutes vos études, tout ça, machin.
Foutu à la poubelle, la qualité de vie aussi, parce qu'on avait j'avais une bonne rémunération, et du coup, bah, on démissionne, on démissionne pas, on négocie une rupture, on se retrouve au chômage, et on se dit, on va essayer de...
Avec une rupture, on n'a pas de chômage.
Rupture, on a une chômage. On a le chômage.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
Ouais, rupture, on a le chômage. Donc, pas de démission, mais rupture. Donc, j'ai négocié, chômage, je suis reparti dans...
Un an.
Un an et demi, deux ans. Maintenant, c'est le gouvernement restreint, mais moi, à l'époque, c'était 2 ans. Et du coup, nous, on avait cette communauté qui grossissait. On a créé, on a participé à la création d'une maraude qui distribuait 250 repas tous les vendredis.
Une maraude, c'est un camion.
Alors nous, on faisait une maraude fixe. On distribuait à Gare d'Austerlitz, Paris 13.
Ouais.
Et on faisait 250 repas tous les vendredis qu'avec des gens bénévoles qu'on trouvait sur notre communauté. Et du coup, on a commencé comme ça à se confronter à la précarité, à l'isolement et à l'exclusion. C'est notamment en organisant ces maraudes qu'on a commencé à décider qu'on allait peut-être quitter notre boulot parce que notre boulot avait plus de sens.
Qu'est-ce qu'a fait justement que vous avez décidé que votre boulot avait plus de sens? Comment vous avez basculé? Est-ce que c'est une phrase de quelqu'un? Moi, je vous dis ça, c'est parce que, on va dire encore, il la ramène, machin, mais je dis sortez couvert depuis 30 ans, j'ai réussi à avoir le remboursement de la Sécu pour mes capotes, puis maintenant elles sont gratuites depuis le 1er janvier pour les mineurs jusqu'à 26 ans, donc c'est 30 ans de combat, mais qu'est-ce qui fait que quand on est, avocat, que ça va bien, qu'on peut se payer une belle bagnole sûrement, un appart cool, qu'on a une fiancée sympa, machin, machin, que tout d'un coup on dit ok, je stoppe tout, je vais faire l'humanitaire à mes risques et périls.
Je pense que c'est un long parcours, mais effectivement, je trouvais que mon boulot avait pas de sens. Je pense que les gens qui étaient dans mon boulot me ressemblaient pas, parce que là, les gens me voient pas, mais j'ai une grosse barbe, j'ai une boucle d'oreille, j'ai des tatouages.
Il y a de la lecture.
Voilà, exactement.
Sur votre bras gauche, il y a de la lecture.
Du coup, voilà, je pense que je ressemblais pas aux gens avec qui j'étais. J'étais pas épanoui. Et surtout, en fait, j'ai eu la chance.
J'étais pas fait pour faire ça.
Exactement. Et surtout, j'avais la chance à côté d'avoir un projet où je rencontrais tout le temps des gens qui, eux, étaient dans l'empathie, dans l'entraide. Chose que moi, je manquais énormément à cette époque-là.
Est-ce que vous en avez eu petit?
De quoi? De l'empathie?
Ouais.
Je sais pas, je pense pas. Je suis un enfant unique. Je pense que le fait d'avoir des projets collectifs, c'est un parcours qui me permet d'aller vers les autres. Je pense que je suis assez solitaire de base.
Mm-hmm. Non, mais je pose ça parce que c'est de la psychologie à 1,20€. Mais en gros, tout ce qu'on fait, à peu près tous autant qu'on est, c'est en réponse, en réaction, en copie de ce qu'on a vécu petit. C'est un truc de ouf quand même. Donc, vous qui faites de l'humanitaire là, on pourrait s'arrêter à, putain, le mec était avocat, il était appuyé, tranquille, et là, il fait un truc, bon, la vie n'est plus la même, hein, j'imagine,
ouais.
Financièrement.
Exactement.
Mais en fait, vous êtes guidé par quelque chose au fond de vous, quoi.
Ouais, je pense qu'on est animé, on a des valeurs, on a une vision. En plus, je vais le dire après, mais nous, on vise beaucoup plus loin. Là, on a un restaurant, mais nous, on veut changer
un peu. Tu vas en mettre partout.
Pas forcément des restaurants. Nous, ce qu'on veut, c'est justement promouvoir le suspendu. On pense que c'est quelque chose qui peut être complémentaire à l'aide qui est promue aujourd'hui envers les associations. Et en fait, nous, on pense que le suspendu, des grands groupes peuvent le faire. Et nous, on a trouvé le moyen de le faire.
Vas-y, racontez-moi. Alors, parce que moi, j'ai essayé de filer des coups de main à Linky avec des grands groupes. C'était pas dans la fouille. Hein.
Ouais, et ben non, mais aujourd'hui...
Notamment nous, des grands groupes qui foutent des tonnes de trucs à poubelle.
Ouais, non, mais je vois. En gros, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est dans notre resto, on a 95% de clients qui peuvent payer, 5% qui peuvent pas payer. Donc tous les jours, moi, j'ai 6 personnes, 3 le midi, 3 le soir, qui viennent manger gratuitement. Donc du coup, leurs consommations sont payées par un système qui est le suivant. Soit c'est mes clients avec pouvoir d'achat qui, quand ils viennent manger, à la fin, ils laissent un pourboire solidaire. S'il laisse 1€ de pourboire solidaire, c'est un café suspendu. S'il laisse 5€ de pourboire solidaire, c'est un repas suspendu.
Mais est-ce que les gens ne pensent pas, les mauvais esprits, vont pas penser que vous vendez plus cher pour garder une marge et que le dessus de cette marge sera pour le suspendu?
Non, alors nous, les prix sont affichés, les prix sont pour tout le monde pareil. Et justement...
Vous êtes raisonnable.
Exactement. Non, on a un café tout à fait raisonnable. On est super bien noté sur Google. On a une note de 4,8 sur 5. Donc les gens trouvent que le service, l'accueil... En fait, tout le monde a droit au beau et au bon. Donc le prérequis, c'était que le café soit accueillant, beau et que la nourriture soit bonne, que tout le monde mange la même chose aux mêmes horaires. Parce qu'en fait, souvent, quand les gens veulent faire de la solidarité, ils disent « Alors moi, je veux bien participer, mais c'est pas chez moi. » c'est, enfin voilà, c'est souvent comme ça. Et donc nous, en fait, ce qu'on a dit, c'est que les gens qui vont venir consommer les repas suspendus, ils vont venir aux mêmes horaires, ils vont s'asseoir aux mêmes tables, ils vont manger la même chose.
Il faut s'inscrire, ils s'inscrivent, les gars.
Exactement, ils prennent une réservation.
Ils sont obligés.
Exactement.
Parce que sinon, t'en aurais beaucoup.
Alors, effectivement, au début, on fonctionnait sans réservation, donc on faisait un accueil inconditionnel, et on a été victime de notre succès. Du coup, on a dû s'organiser un petit peu plus. Et maintenant, on a à peu près entre 80 et 100 habitués. Qu'on connaît parce qu'on est en contact avec des associations comme La Cloche, comme Dans ma rue, comme Linky aussi. Et du coup, on a à peu près entre 80 et 100 habitués qui viennent. Et ça fait qu'ils viennent au restaurant. Beaucoup viennent pour un café quasi.
Combien de fois par semaine ?
Alors, ils peuvent venir en ce moment pour manger, c'est à peu près tous les 15 jours, parce qu'il y a un roulement. Okay. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et le café, il y a des gens qui passent tous les jours pour prendre un café suspendu.
Ça veut dire que votre marge n'est pas une marge naturelle dans un restaurant ?
Si. Et moi, moi, je fonctionne de la manière suivante. J'ai mes clients qui laissent un pourboire. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous venez chez moi, vous consommez pour 100 euros, vous avez passé une super soirée. À la fin, on vous propose de laisser 5 euros de pourboire pour financer un repas.
Ça finance 5 euros?
Aujourd'hui, au bout de 6 mois, on avait 1400 personnes qui avaient donné. Donc, sur un petit restaurant, ça fait quand même beaucoup de gens qui donnent.
Ouais.
En tout cas, pour un repas.
T'en as pas qui donnent rien, quand même.
Si, il y en a plein qui donnent rien.
Et pourtant, ils savent où ils sont.
Oui, mais on a eu une phrase très rigolote d'un gars qui nous a dit « Moi, la solidarité, je m'en fous, ça ne me touche pas, et donc je ne participerai pas. » Mais du coup, c'était un gars qui était chez nous. Et moi, je trouve ça...
Et qui vient quand même.
Ouais, je trouvais ça drôle. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire participer les gens sans justement les prendre en otage. Et donc, ils veulent donner, à la fin, ils donnent. Nous, on a un système aussi, c'est une carte de fidélité solidaire, en fait. Si tu viens manger chez moi 5 fois... Moi, j'offre automatiquement un café à une personne en situation de précarité. Et si tu viens manger 10 fois, là, j'offre un repas. En fait, j'estime que si t'es venu manger 10 fois, j'ai suffisamment gagné d'argent pour pouvoir financer un repas pour
trop
quelqu'un.
Bien.
Et on est aidé, bien évidemment, par des fondations, par des entreprises qui, eux aussi, complètent et abondent.
En argent ou en nourriture ?
On a les deux. On a les deux, argent et aussi en nature, enfin en nourriture.
Qui est le boss ?
De
ce restaurant, par exemple.
Alors, c'est pas moi, elle s'appelle Pauline Borde.
D'accord.
Elle est directrice d'exploitation. Et nous, avec mes associés...
C'était une copine d'avant ?
C'est une copine qu'on a rencontrée, ouais, comme ça, dans le projet, ouais. Qu'elle avait de l'expérience de la restauration. Parce qu'en fait, on a déjà testé le modèle pendant 4 ans, alors qu'on n'avait pas l'expérience de la restauration.
Ça, oui, parce que c'est un métier.
C'est un métier. Et en ce moment, c'est très dur. Donc, c'est un métier très compliqué. Et socialement, ça avait super bien marché. Et du coup, quand on a ouvert à Paris... On s'est dit, là, on a acheté un gros lieu.
C'était où ? Dans le sud-ouest ?
C'était, ouais, sud-ouest Bordeaux.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite tonalité, là.
Ouais, je sais.
Sur les sofas, rose.
C'est possible. Ah. C'était à Bordeaux.
De là où vous êtes.
Exactement. Parce qu'en fait, quand on a été au chômage, on s'est rapproché de...
Vous êtes un bourgeois bordelais qui était avocat. À la Défense.
Alors, je dirais pas ça, mais non, quand on s'est retrouvé au chômage, on pouvait plus payer d'appartement à Paris, donc on a dû rentrer à Bordeaux, se mettre en coloc et se rapprocher surtout de nos parents qui, au cas où, pouvaient nous aider financièrement. Et une fois que le projet a commencé à se lancer, on a décidé de revenir à
Quand
Paris.
Quand vous dites on?
Parce que j'ai des gens avec qui j'ai monté le projet qui s'appellent Luc et Jérémy.
D'accord, des potes.
Des potes, ouais, des potes.
Et c'était décidé à trois, il faut qu'on fasse ça.
Il faut, il y a des errements, on n'a pas tout décidé, mais en fait, ouais, il y a eu plusieurs choses.
Enfin, on veut aider.
Ouais, exactement.
On veut être utile.
C'est venu sur le tas. Moi, j'étais pas du tout dans l'empathie. Je pense que j'étais, très centré sur moi-même. Et le fait de rencontrer des gens, de participer à des maraudes, on a fait des distributions dans des...
Des maraudes, hein, donc.
Des maraudes. On a fait des distributions dans les centres sociaux. En fait, nous, ce qui nous marquait, c'était ce côté, il y a des endroits pour les pauvres et il y a des endroits pour les riches. Et en fait, quand on est allé faire des maraudes et quand on est allé distribuer de la nourriture dans des centres sociaux, on s'est dit, mais en fait, c'est tous les gens qui sont là, ce sont des gens qui sont globalement dans la merde. Ils sont regroupés en masse à certains endroits pour qu'on leur fournisse une aide qui est urgente et nécessaire. Mais du coup, nous, on trouvait ça, heureusement que ça existe, hein, mais nous, on trouvait ça, dans notre façon de penser, un peu stigmatisant, parce que dans la précarité, il y a différents niveaux. Et donc, du coup, une maman qui est en train de rentrer dans la précarité avec son enfant, elle peut se retrouver dans ces endroits face à des gens qui sont dans la rue depuis 10 ans, 15 ans, qui ont d'autres problèmes. Et du coup, nous, on trouvait que c'était violent pour ces gens-là. Et nous, en fait, on s'est dit, mais OK, mais si on crée que des endroits pour les pauvres où on va les aider, mais comment, en fait, on veut que ces gens-là soit inséré dans la société.
Se mélange.
Exactement, se mélange. Et en fait, du coup, c'est un
comme peu... aujourd'hui, le problème des villes, où Annecy connaît pas Les gens d'Annecy connaissent pas les gens de Marseille, les gens de Lyon connaissent pas, donc les cultures ne s'intermélangent pas. Et c'est
parce qu'on manque d'espace commun. En fait, nous, c'est ça. Notre philosophie, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'espace commun. Et du coup, en fait, nous, on s'est dit, OK, on veut lutter contre la précarité, l'isolement et l'exclusion. Sauf que du coup, on va le faire dans un endroit avec des gens qui n'en souffrent pas et des gens qui en souffrent. Et on va les faire se rencontrer.
Alors, redis le nom, parce que comme ça, on va pouvoir le répéter plusieurs fois, parce que je vais le redire à la fin.
C'est le Wanted Café.
Wanted Café à Paris, dans le...
Faubourg Saint-Martin. Dans le dixième.
Ouais. 78 rue du Faubourg Saint-Martin.
70,
oui.
Et voilà, et on est parti de là. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous, eux, les repas, ils sont payés. C'est-à-dire que moi, quand je fais un repas pour une personne qui est en situation de précarité, j'ai à la fois les clients qu'on finance, j'ai aussi des fondations qui m'aident. Et donc, du coup, nous, l'idée...
Financièrement.
Et donc, du coup, nous, l'idée, c'est de dire, OK, nous, aujourd'hui, on a un café qui va faire à peu près 900 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc,
c'est déjà bien.
C'est pas une petite boutique. L'idée, c'est de viser la rentabilité. Et donc, du coup, de dire, mais en fait, si nous qui partons de zéro, qui étions au chômage il y a quelques années, on a réussi à créer cet endroit.
Quel âge vous avez?
Moi, j'ai 38.
D'accord. Vos copains aussi. Donc.
J'ai réfléchi parce que j'ai l'impression que je suis toujours jeune, mais en fait, ça, c'est un truc
je peux vous confirmer que vous êtes jeune. Sinon, je vais me fâcher.
Forcément. Vous êtes jeune, vous aussi, du coup.
Voilà. C'est ça.
En fait, voilà. Et si nous, on y arrive, en fait, il n'y a pas de raison que d'autres acteurs n'y arrivent pas. Et l'idée, c'est...
Question de volonté, quand même.
C'est une question de volonté. Mais aujourd'hui, en fait, je crois qu'il y a 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Il y a 3 millions de Français qui ont moins de 3 conversations par an. Enfin, c'est moi, quand on m'a dit ce chiffre...
Combien tu dis ?
3 millions de Français qui ont moins de 3 conversations par an. Donc ça, c'est plus, je pense, dans les zones rurales. Mais c'est hyper dur, c'est très violent. C'est un chiffre de l'INSEE, donc c'est très violent comme chiffre.
Que j'avais jamais entendu et qui est effectivement très violent.
Et il y a aujourd'hui la banque alimentaire, du coup...
Enfin, sauf si c'est des conversations qui durent 2 mois, mais c'est pas le cas.
Ah ouais, non, ouais.
Non, c'est pas le cas.
Pas le cas. Mais voilà, là, il y a l'inflation qui monte. Et en gros, il y a en 10 ans, il y a 3 fois plus de personnes qui vont à la banque alimentaire, dû au regard des conditions économiques actuelles. Et en fait, la seule réponse qu'on apporte, c'est de dire, bon, alors on va créer des épiceries solidaires, on va créer des banques alimentaires. Et en fait, du coup, l'État développe des plans de plusieurs millions d'euros pour aller financer des dispositifs d'urgence, mais sans essayer de réfléchir comment on change le système, en fait, et comment on impacte. Et donc, nous, on s'est dit, nous, on va créer une société.
C'est toujours le pansement sur la jambe de bois.
Exactement.
Mais qui finit par tomber, quoi.
Exactement. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, on est personne, mais ce qu'on va essayer de tester, c'est qu'en fait, nous, on va créer notre boîte et que notre boîte, elle va avoir de l'impact. Et si nous, on y arrive, derrière, on pourra aller expliquer aux autres, regardez, nous, on est nobody, on y arrive. Vous, vous avez l'argent, vous pouvez avoir de l'impact fois 1000 par rapport à nous. On va vous expliquer comment on a fait et est-ce que ça vous branche de le faire.
Et la boîte, elle s'appelle comment ?
C'est le Wanted Café. Enfin,
c'est ça.
On a un
d'accord.
nom de société, mais...
D'accord. Mais ça veut dire que l'ambition de gagner beaucoup d'argent un jour...
Non, moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est avoir de l'impact. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'anime tous les jours...
Non, mais je dis ça parce que j'imagine que quand on fait 4 ans, 5 ans d'études, qu'on est avocat d'affaires, on a quand même une certaine idée de ce que va être la vie ou de ce qu'elle peut être ou de ce qu'elle est.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'à un moment, voilà, on s'assoit parce que tu peux pas devenir riche en faisant ça.
Je pense que c'est pas antinomique.
Mon but, c'est pas d'être riche, mais
mon but, c'est de vivre décemment. Mais je pense que... Tout dépend ce qu'on fait, en fait. Nous, encore une fois, on a un modèle de café. Comme tu l'as dit, on pourrait en créer d'autres. Donc, en fait, si j'en
donc
crée
si
d'autres...
Donc, si t'as n'importe quoi, t'as 50 ou 100 cafés, tu vas gagner un peu d'argent.
Comme toute personne qui a 50 ou 100 cafés.
Et tu te verrais arriver au café avec une caisse de sport.
Ah non, moi, c'est sûr que je ferais pas ça.
Voilà.
Mais non, parce que nous, ce qui nous anime tous les jours, c'est de se...
C'est les autres.
En fait, c'est de se dire comment ce que nous, on fait, qui a un petit impact, mais qui est hyper qualitatif. Parce qu'en fait, là, ce dont on a parlé un peu, c'est les chiffres. Mais en fait, on a fait une vidéo, tu vois, avec Combini, où ils ont interviewé des gens qui viennent consommer les suspendus. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que ce qu'on fait, c'est complémentaire de ce que font les associations. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est que chez nous, ce qui est intéressant, c'est que justement, ils sont pas qu'avec des gens qui sont en difficulté.
Ils sont mélangés.
C'est qu'ils sont accueillis aussi. Ils franchissent la porte d'un restaurant où on leur dit bienvenue, j'espère que tu vas bien.
À qui ils ont réservé,
Exactement. Donc, ils ont une attente, ils ont envie d'aller au restaurant, ils viennent. On discute avec eux.
Comment sont les gens avec eux?
Nous, ce qui était marrant au début, c'est que les gens qu'on a recrutés dans notre équipe, il y en avait qui nous ont rejoints parce qu'on avait cette mission. Et d'autres qui étaient chez nous un peu par hasard et à qui, tu vois, le fait d'accueillir des gens en situation de précarité faisait un peu peur. Et du coup, là, nos collaborateurs, ils sont tous à fond. En fait, ça a
changé. Et les clients?
Et les clients, ben, c'est pareil. En fait, nous, on impose à personne de discuter et de dialoguer. Mais les clients qui sont animés par ce qu'on fait, déjà, ils viennent consommer chez nous plus régulièrement. Parce qu'en fait, ils disent, je vais soutenir ce commerce qui est engagé. Et du coup, ouais, ils tissent des liens avec certaines personnes qui sont en situation de difficulté. Là, je pense à un mec qui s'appelle Mike. Tu vois, il vient de commencer son service. Il était à la rue. Il a trouvé un appart avec son assistante sociale. Il vient de commencer un service civique avec les petites cantines. Et tous les jours, il vient au café. Il nous tient au courant. Il nous dit, regarde, ça, c'est l'appart que j'ai eu. C'est la nouvelle chambre.
Quel âge?
Fois, Mike, il est jeune, il doit avoir 26, ouais, un truc comme ça, 25, 26. Et voilà, enfin, il y en a plein, Diallo, Magide aussi, qui a trouvé un appart. En fait, nous, on les voit évoluer, et en fait, je pense que ce qui leur fait du bien aussi, c'est de venir dans cet endroit, des fois prendre un café ou un plat, parler à personne, parce qu'en fait, ils ont une journée compliquée, et ils veulent parler à personne. Par contre, ils savent que s'ils veulent parler, ils sont au bon endroit.
Donc, c'est plus psychologique que purement
l'été,
par exemple, qui nourrit ouais. Vraiment avec le colis de 7 kilos par semaine, etc. J'ai l'impression que vous, c'est plus l'idée d'intégration, de mélange,
ouais.
D'acceptation,
exactement.
plus que de bouffe,
exactement.
Même s'ils ont un kiff de
ouais, faire voilà. Un repas. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est trop chouette, c'est qu'ils peuvent choisir sur la carte ce qu'ils mangent. Tu vois, on a un filet de bar avec une émulsion au homard. Enfin, on a des trucs un peu cool.
Il y a des petites pâtes, j'ai vu des ravioles.
On a des ravioles de Royan, on a eu des gnocchis à la truffe.
Ouais. Voilà, j'ai vu ça.
Donc, ils ont des. Non, mais ils ont
donc,
des.
Donc, t'as cool. Des mecs quand même qui sont dans une vraie précarité.
Rue, ouais. Et qui te commandent des gnocchis à la truffe.
Ouais, c'est top.
Et qui sont à côté de toi et qui. Alors, du coup, le client qui paye ne sait pas qu'eux ne payent pas, à part si la personne, elle est trop cabossée par la vie.
Ah, ils savent pas.
Non, exactement. L'idée, c'est que, justement. Bah,
ah, mais ils savent quand même. Le principe du
restaurant. Ils connaissent le principe du restaurant, mais quand tu es dans le restaurant, tu peux te dire, mais en fait, quelles sont les personnes qui. On a des mamans, tu vois, avec. On a des familles, des mamans avec des enfants qui sont isolées et qui n'ont pas les moyens d'aller au restaurant, tout ça, et qui se disent, bah, du coup, en fait, je vais amener mes enfants au Wanted, tu vois, ça leur fait une sortie. Et ces
au Wanted, pour ceux qui ouais, nous écoutent.
Et du coup, ces gens-là, quand ils viennent, ben, c'est pas marqué sur leur visage, en fait, qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Et en fait, nous, c'est justement là notre démarche, c'est-à-dire que. Nos clients avec pouvoir d'achat.
Oui, mais tu peux pas refuser ceux qui ont l'air de ne pas être en état de payer, qui sont très cabossés, comme tu disais.
Non, nous, on les accepte, justement. Nous, on les accepte. Mais du coup, quand t'es client chez moi avec pouvoir d'achat, des fois, tu vas identifier les personnes qui bénéficient des suspendus. Mmh. Et des fois, tu ne vas pas les identifier.
OK.
Et en fait, nous, ça nous plaît. Ça nous plaît parce que l'idée, c'est pas que les gens soient stigmatisés. Et justement, l'idée, c'est que, pour une fois, ils puissent être comme tout le monde, profiter d'un service qui est la restauration, la gastronomie, qui crée du lien, sans que les autres portent un regard sur eux. Tu vois. Et aussi, c'est con, mais ces gens-là, ils vont que dans des endroits qui sont faits pour eux, pour des gens en situation de précarité, où on les accueille, on leur pose des questions, ils sont confrontés à d'autres gens dans la merde. En fait, là, ils viennent, ils se posent et ils sont face à d'autres gens. C'est bizarre, mais qui n'ont pas de problème, qui rigolent, qui passent du bon temps. Ça aussi, pour la tête, en fait, ça fait beaucoup de bien de se dire, je passe un moment.
J'allais poser la question de, est-ce que de temps en temps, le retour à la vraie vie est pas un peu ardos?
Bah, je sais pas. Si, en fait, tu te dis, bah, 100% de ta journée, t'es dans la merde, et que nous, grâce à nous, il y a 95% de ta journée où t'es dans la merde et 5% où tu passes un bon moment.
Cool.
Je préfère les
5%. Oui,
tu vois, je prends la situation
cool.
Où j'ai les 5%.
Oui, oui, clair.
En fait, si ta question, c'est est-ce que moi, je règle un problème pour ces gens-là de manière pérenne, la réponse, elle est non. Pour le moment, moi, j'ai pas vocation à faire ça. Tu vois, là où tu disais Linky, en fait, eux, ils fournissent des repas et de l'aide alimentaire, on va dire en grosse quantité à
pour une semaine, ouais.
Exactement, pour une semaine. Et effectivement, là, ils répondent à un vrai besoin dans la durée. Nous, on est plus dans notre restaurant sur quelque chose, effectivement, de plus de création de liens sociaux, de non-stigmatisation, d'inclusion.
Et de détente psychologique, un peu.
Exactement, exactement. Par contre, là où, effectivement, on pourrait avoir un impact de masse, c'est aujourd'hui, moi, je fais du suspendu dans mon restaurant, qui est quand même une expérience costaud, parce qu'il faut se dire qu'il y a des gens chez moi qui ont du pouvoir d'achat, qui viennent, qui mangent, et entre guillemets, qui vont manger à côté d'un gars qui est à la rue, tu vois, avec tous les clichés que ça peut coller autour, tu vois.
Et qui va manger la même chose.
Qui va manger la même chose, tu vois. Donc moi, j'ai une expérience où les gens passent du temps à côté les uns des autres.
Mais ça veut dire aussi que les clients sont des bonnes personnes, a priori. C'est des gens solidaires.
Ben, là, je regarde Marie
pas toujours.
Parce qu'elle est avec moi, mais non, franchement, il y a des gens, ils s'en foutent. Il y a des gens, ils nous disent, moi, je viens toutes les semaines parce que je vous soutiens. Il y a des gens, ils disent, moi, je m'en fous.
Et pourquoi ils viennent alors? Parce que c'est bon?
Parce que, ouais, c'est délicieux. Ouais. Et on bosse super bien. Et du coup, on a une équipe qui est très humaine. Donc, on a un contact qui est hyper bien développé avec les.
Combien il y a de couverts?
Ouais, on peut faire 80, 90.
Dans la journée?
Non, ouais, ça, c'est d'un place coup. Assise, ouais. D'accord. Entre okay. terrasse et intérieur.
OK.
Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand tu fais... 40... Là, ce midi, on a fait 47 couverts, bah, du coup, on avait 3 personnes suspendues. On a dû faire 8 cafés ce matin, suspendus. Donc, tu vois, c'est pas des grandes doses. C'est pour ça que moi, mon objectif, c'est plutôt d'aller convaincre d'autres gens de le faire pour avoir un impact beaucoup plus grand.
Tu veux dire qu'il faudrait pas multiplier le nombre de suspendus Exactement. Par établissement Exactement. Et qu'il y ait plus d'établissements
Exactement.
Avec le même nombre de suspendus.
Exactement. Moi, en gros, mon idée, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'arrive à les financer, les suspendus. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne perds pas d'argent en le faisant. Enfin, c'est ça que je veux démontrer. Et donc, aujourd'hui, quand tu rencontres des grands groupes de la grande distribution et qui te disent, ben, nous, en fait, on, au lieu de jeter, on prend un camion, on paye un chauffeur, on dépense du CO2, du carbone pour aller à tel assaut, pour que cet assaut, elle distribue à 400 personnes. En fait, nous, avec notre idée du suspendu, c'est, mais en fait, vous avez une obligation d'avoir, d'être responsable, socialement et écologiquement. Est-ce que c'est pas mieux de faire l'action chez vous, dans votre supermarché, et d'accueillir, comme nous, on accueille dans notre restaurant, une petite partie de personnes qui sont en situation de précarité.
Vas-y, comment ça se passerait?
Bah, du coup, c'est très simple. C'est genre, aujourd'hui, tu peux très bien te dire que le Monoprix, le Carrefour, le Leclerc ou le Auchan du coin soutiennent ultra localement une centaine de familles qui sont recommandées par les CCAS, les centres sociaux, et que du coup, en fait, ces familles, toutes les semaines, elles pourraient avoir des paniers ou des produits qu'elles pourraient aller prendre, récupérer dans ces magasins-là. En fait, c'est la même chose. C'est, au lieu de l'amener à la banque alimentaire, en fait, tu le gardes chez toi. Ouais. Les gens viennent. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait dans notre
restaurant. Tu crois qu'ils accepteraient d'avoir des gens, entre guillemets, comme ça, dans leur magasin?
Mais en fait, encore une fois,
c'est... Parce que les autres clients, ils vont faire burk un peu quand même, on les connaît, hein.
Non, mais parce que, ben oui, mais moi.
Quand c'est la grosse, quand c'est l'humanité avec un gros pourcentage, tu vois, c'est pas toujours cool, quoi.
Non, je comprends. Mais du coup, là, encore une fois, tu vois, c'est parce que nous, dans les 80-100 habitués qu'on fait, on a, allez, on va dire 10-15 personnes qui sont vraiment très cabossées et que tu identifies vraiment, tu vois, quand ils rentrent et qui nécessitent peut-être un peu plus d'attention que les autres. Mais après, les 70 restants, honnêtement, tu fais pas la différence entre un étudiant précaire et un étudiant pas précaire. Genre, c'est compliqué de faire la différence. Mmh. Et donc, en fait, les gens dont je te parle, les familles qui pourraient aider de manière hyper locale, en fait, elles vont déjà dans ces supermarchés. C'est juste qu'elles peuvent pas acheter tout ce qu'elles veulent ou elles y vont que de manière très sporadique. Mais en fait, elles y sont déjà, elles sont à côté, elles connaissent l'endroit. Et en fait, c'est tout un effort de non-stigmatisation. C'est-à-dire, pourquoi ces gens doivent aller à un endroit précis, réservé pour les pauvres, pour récupérer
des produits. Alors qu'ils pourraient aller directement.
Exactement.
Du producteur au consommateur, entre guillemets.
Non, mais exactement. Ouais. Et quand tu réfléchis à ces grands groupes qui te disent, bah, nous, en fait, on a envie d'être plus engagés. Nos collaborateurs nous demandent de donner du sens à leur métier. Et en fait, moi, aujourd'hui...
C'est ça qui va changer, en fait.
Mais oui.
C'est que les collaborateurs vont induire une force qui va faire que les patrons qui sont pas forcément touchés ou sensibilisés ou qui ont peur de faire peur, justement, à la grande masse de leurs clients, c'est peut-être justement les collaborateurs qui vont dire « Non, non, mais faut y aller, là. »
Bah, moi, tu vois, je bosserai dans un grand groupe et à la fin de l'année, le groupe me dit « Bon, ben, nous, on a donné tant de tonnes de nourriture à la banque alimentaire. »
Et tant à la poubelle.
Ouais, et tant à la poubelle, allez. Ben, en fait, moi, je suis là, ok, en fait, les gens, je les ai pas vus, c'est mon groupe qui fait ça, mais je suis informé par une newsletter à la fin de l'année qu'on fait ça, mais j'ai pas été impliqué. Alors qu'en fait, si je suis caissière au supermarché ou, comme chez nous, serveur, et qu'en fait, ben, tous les jours, j'ai une petite quantité de personnes qui vient, et en fait, j'ai l'impression de faire mon métier différemment, parce que j'ai l'impression d'être utile. Je vois que ces gens, le service que je leur apporte, c'est un service, mais ultra qualitatif, auquel ils n'avaient pas accès si mon entreprise n'avait pas mis ça en place.
Super.
Et en fait, ça change ma façon de voir le travail. Et nous, on avait des collaborateurs qui voulaient arrêter la restauration. Ben en fait, maintenant, ces collaborateurs, ils sont en CDI chez nous, ils espèrent qu'on va en ouvrir d'autres, et ils disent qu'on a changé leur façon de voir le métier.
Qu'est-ce qui vous manque alors des thunes?
Non, mais alors pas spécialement.
Pour ouvrir d'autres.
Alors pour ouvrir d'autres lieux, effectivement, il nous faudra de l'argent. Mais pour aller convaincre des grands groupes, il faut juste qu'on rencontre les bonnes personnes. Là, on a rencontré Elisabeth Moreno, qui était l'ancienne ministre de l'Égalité des Chances. On lui a parlé de notre idée. Elle trouve ça super cool. Là, voilà, on est en train de rencontrer des gens justement qui ont des grands groupes avec lesquels on discute et on leur propose l'idée et on leur propose surtout la manière de le financer, la manière d'impliquer leurs collaborateurs.
Et t'as pas envie d'aller voir des grands groupes de restauration justement ?
Alors j'ai un rendez-vous avec un très grand groupe de restauration D'accord. en mai qui détient, je crois, 450 restaurants en France. Du coup, c'est très gros et l'idée, c'est de leur présenter le projet. d'essayer de voir avec eux s'ils sont OK pour tester, tu vois, à petite échelle, et voir du coup l'impact que ça fait sur leurs collaborateurs, sur leur clientèle. Mais ouais, nous, l'idée...
450, c'est beaucoup.
Ouais, bon, ils font 1 milliard de chiffres.
Je cherche qui c'est, mais...
je ne le cite pas parce que je n'ai pas fait le rendez-vous.
Off.
Ouais, je n'ai pas encore fait le rendez-vous, donc je ne sais pas s'ils vont, tu vois, s'ils vont être OK pour le faire. Mais tu vois, nous, on réfléchit à tout. Tu pourrais avoir... En fait, le suspendu, ça marche pour tout. Ça, tu pourrais offrir des titres de mobilité, enfin, des titres de transport suspendus pour des gens qui... ont des difficultés pour se déplacer, pour aller chercher du boulot. Tu vois, tu pourrais faire des chambres d'hôtel suspendues si tu voulais, par exemple, tu vois, un exemple tout bête, mais tu fais un partenariat avec une association de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mmh. Elles, quand elles vont au commissariat porter plainte, nous, en fait, si on était en partenariat avec des hôtels qui leur mettaient à disposition une chambre pendant une semaine, moi, je suis client de l'hôtel, je réserve ma chambre, tu me dis, en fait, si tu rajoutes 10 euros ou 15 euros, sache qu'il y a une femme qui était victime de violences conjugales.
Mais c'est top, ça.
Enfin, tu vois.
Et en fait. Et ça peut se faire partout,
mais bien sûr. Et c'est, du coup, c'est comment tu redonnes de la valeur à ta marque, comment tu redonnes la valeur de ton service, à ton
pour
service.
Pour la com de la marque, c'est
mais
canon.
Mais bien sûr.
Pour le bien-être des autres, c'est
mais
canon.
Bien sûr. Ton client est fier de venir chez toi et participer.
Absolument.
Donc, en fait,
et ceux qui sont dans la merde, tout d'un coup, sont tellement heureux. Mais, qu'on puisse les aider.
Mais exactement.
Parce que pour parler des violences conjugales, en général, c'est, bon, bah, écoutez, retourner à la maison.
Ben, c'est ça.
Et retourner avec la plainte dans la poche, tu veux, c'est pas bon.
Exactement. Et donc, en fait, quand tu mets tout ça bout à bout, en fait, l'argent, il est là. C'est juste qu'il faut le réorienter. Les collaborateurs qui ont envie d'agir, ils sont là. Les entreprises, elles veulent agir, mais généralement, c'est plus facile pour elles de faire un chèque en fin d'année plutôt que d'agir. Et donc, en fait, tout est là pour que ça marche. Et nous, notre objectif, c'est de réussir, justement, bah, à créer ce mouvement. Et je pense que si voilà, il y a une ou deux grandes entreprises qui s'y mettent, je pense qu'on peut avoir un vrai changement systémique qui sera complémentaire de ce qui se passe aujourd'hui avec le financement.
Et même Linky, que tu vois les queues des étudiants. Enfin,
ah, mais du coup, tu vois, par exemple, Julien, on s'est rencontrés, on a fait plein de maraudes ensemble. Il fournissait notre maraude en produits, en invendus qu'il récupérait. Et Julien, j'ai dit, mec, tu fais tes distributions avec les étudiants, c'est trop cool. J'ai dit, par contre, moi, je vois, t'as une queue de 400 étudiants.
Terrible.
Je lui dis, putain, c'est dur pour les étudiants. Il me dit, ouais, putain, ça fait chier. En plus, quand il pleut, les mecs se mouillent et tout.
Ouais, je te confirme. Je suis allé.
Tu vois? Donc, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je peux pas faire pour mon resto, c'est accueillir tes 400 étudiants parce que ça va venir trop impacter sur mon chiffre d'affaires, sur mon organisation, tout ça. Je lui ai dit, par contre, moi, ce que je te propose, c'est de prendre un créneau l'après-midi. On en fait venir que 40. Par contre, ce qu'on leur propose, c'est de travailler, de bosser et de se rencontrer et d'échanger dans le resto. Et moi, je leur fournis des cafés, du thé, de la bouffe. Et toi, tu leur fournis un colis alimentaire à la fin de la journée. Comme ça, en fait, les mecs, ils font pas la queue. Ils viennent, ils passent une après-midi, ils bossent.
Et ils bossent leur cours.
Ils bossent leur cours et ils repartent avec leur colis alimentaire. Mmh. Comme ça, il n'y a pas de stigmatisation.
Tu fais
pas la queue, c'est pas violent. On a commencé, ça fait 2 mardis qu'on le fait. Maintenant, c'est en place tous les mardis.
Super.
Voilà. Et donc, du coup, tu vois, à chaque fois, c'est cette idée de dire, moi, j'ai un outil, je suis une entreprise, j'ai un outil qui a besoin d'être efficace économiquement, mais il y a aussi des temps où je peux être utile socialement sans que ça me coûte de l'argent. Et du coup, en faisant des partenariats avec des assos ou en créant des nouveaux modèles, ben en fait, tu peux être utile malgré le fait que tu sois une entreprise.
Si jamais quelqu'un qui nous écoute, une femme ou un homme, et dont l'homme ou la femme est entrepreneur ou a une entreprise, ou si elle veut te joindre, elle fait quoi, hein, cette personne?
Eh ben, il faut nous contacter sur notre Insta ou sur LinkedIn. Il y a une des plus grandes fortunes françaises qui nous a contactés sur LinkedIn. Donc voilà, parce que lui, il a un groupe, je crois qu'il a plus de 100 000 salariés.
Pas mal.
Et du coup, il a vu les suspendus et il nous a dit, moi, en fait, j'ai pas mal de collaborateurs qui sont en situation, enfin, dans des emplois précaires, parce que c'est beaucoup de travail de manutention, voilà. Et il nous a dit, moi, j'aimerais bien développer le suspendu à l'intérieur de ma boîte pour mes collaborateurs. Et du coup, parce qu'il a différentes activités, comme de la restauration collective, du coup, lui, ce qui lui intéressait, c'était de se dire, OK, j'ai des gars qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, est-ce que les restaurants collectifs que j'ai dans ma boîte pourraient les accueillir pour qu'ils puissent venir manger et que, du coup, les fins de mois soient plus faciles? Et donc, du coup, il y a plein d'implications, tu vois. Et moi, je crois vraiment en ce modèle.
Est-ce que les gens, tu crois, dont je parlais, moi, il y a 12 ou 13 ans, qui faisaient des cafés suspendus, des baguettes suspendues, ils le font encore, ils existent encore, tu sais,
on,
ou pas?
On a quelqu'un qui fait une étude justement sur les cafés suspendus, et généralement, les cafés, les bistrots qui le font, ils ont du mal à tenir. Et parce que je pense que nous, on l'a expérimenté. En fait, quand tu le fais, il faut mettre des règles, tu vois. Et nous, par exemple, c'est bête, mais quand je t'ai dit, il y a 6 personnes qui mangent
c'est
par jour.
C'est pas 7.
Exactement, c'est pas 7. Mmh. Et du coup, quand je te dis qu'on prend une réservation pour que tu viennes, c'est-à-dire que la première fois que tu viens et que t'as faim, en fait, moi je te dis, ok, je peux pas te prendre aujourd'hui. Par contre, regarde, on peut ouvrir le cahier et je peux te prendre dans 10 jours, donc je réponds pas à ton besoin tout de suite. Mais du coup, on discute. Et en fait, je crée du lien avec les personnes. Et quand je te disais que j'ai 80 à 100 personnes, c'est des gens que je connais, en fait. Et du coup, je crée du lien avec eux et j'en veux pas plus. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, mon but, c'est pas de faire 400 repas suspendus dans mon resto par jour. Parce que c'est pas ça que je veux prouver. Moi, je veux pas lutter contre la précarité alimentaire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on vive ensemble dans les mêmes espaces. Et donc, je pense que les gens qui ont testé le café suspendu...
Et tu n'avais pas ça, ce déclenchement-là que tu as eu en toi pendant une fois que tu étais installé avocat, ou enfin, dans un cabinet en tout cas, ça t'est venu, c'est tes potes qui t'ont apporté ça, ou ça t'est venu toi, ou c'est une copine?
Non, mais c'est
ou...
tout. En fait, la personne qui faisait la maraude chez nous, elle mettait une énergie incroyable pour aller aider les gens tous les vendredis soirs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et j'étais admiratif de ça, tu vois.
Ah, t'avais déjà commencé, d'accord.
Ouais, mais surtout, je me disais, mais putain, mais pourquoi moi, la société valorise vachement... Alors, une petite anecdote, mais moi, à l'époque, j'étais avocat, du coup, je faisais des gros horaires sur 5 jours. Le week-end, j'étais tellement frustré d'avoir cette vie de merde que je faisais beaucoup la fête, donc j'avais une consommation de produits addictifs très compliquée. Et du coup, je vivais pas, et j'avais vu, tu me demandais qu'est-ce qui m'avait marqué une fois. Je crois qu'elle s'appelle Nathalie. Enfin, c'est en tout cas c'est Rollman. Je sais pas si c'est Nathalie. Je sais plus comment elle s'appelle son prénom. Mais c'est une humoriste qui est, je crois, sur France Inter, un truc comme ça, qui avait fait une chronique un jour et elle parlait de du fait que quand tu vas bosser, t'as déjà envie d'être à la poste. Quand t'es à la poste, t'as envie d'être à la poste de midi. Puis en fait, t'as envie d'être
à la pause.
Ouais, c'est mon accent ça. Ouais. Et du coup, t'as envie d'être au soir. Et puis quand t'es au soir, t'as envie d'être au week-end. Et quand t'es au week-end, t'as envie d'être en vacances. Et en fait, la meuf, elle découlait tout le truc jusqu'à. Mais en fait, t'as déjà envie d'être à la retraite.
Ouais, en fait, c'est vrai.
Et moi, je m'étais reconnu là-dedans. Je m'étais dit, mais en fait, si tu me dis que je vais plus bosser, c'est le meilleur jour de ma vie. Et donc j'ai dit, mais en fait, faut que je change mon boulot, quoi. Il faut que je fasse autre chose.
Okay.
Et donc c'est venu comme ça. Et puis à force de croiser des gens qui m'étaient, tu vois, on avait été dans un centre social à côté de Bordeaux et on avait rencontré des éducateurs sociaux, mais c'était hyper dur. Nous, on l'avait fait comme ça.
Ah, ça frappe, ouais.
Putain. Et moi, je m'étais dit, mais ces gens-là, en fait, ils sont pas considérés. Ils ont des bas salaires. Ils mettent une énergie de dingue. Ils prennent une précarité, une violence pleine gueule. Et même moi, tu vois, ça me questionnait. Moi, je me disais, j'ai envie de faire un projet social.
Mais est-ce que je vais y arriver psychologiquement?
Ouais, mais par rapport à ces gens, je suis zéro, en fait, tu vois, parce que moi, je l'ai pas expérimenté au quotidien. Et du coup, ben, ouais, tu réfléchis à tout ça, et puis petit à petit, tu te lances, puis tu gères les premiers gars, comme tu peux, en situation de précarité, et puis après, ouais, je sais pas, je pense qu'il y a un truc, tu développes quelque chose.
Bon.
Enfin, je pense que t'as un métier de communicant, donc tu sais ce que c'est, le relationnel, tu sens les gens, et puis ça se fait naturellement.
Ouais, ouais, mais enfin, je trouve ça formidable qu'il y ait de plus en plus de gens comme toi. Et qui ont envie de s'occuper des autres.
Parce mais je sais que t'en rencontres beaucoup en ce moment, donc je pense que ça. Je sais que voilà.
Mais moi, de mon côté, j'ai fait mon petit bout de chemin. Hein. Bon, enfin, c'était 30 ans de bordel quand même. Hein. Bah, on a fait 65 millions de capotes, on n'a jamais demandé un rond à personne. Hein. Donc c'était une énergie, entre autres, sacrément dépensée, et pour arriver à la capote gratuite. Donc je le redis, d'ailleurs, je profite que tu sois là pour dire que même les gens qui sont en situation, surtout. Les gens qui sont en situation de précarité, ils peuvent aller, s'ils ont moins de 26 ans, dans une pharmacie et demander, dire sortez couvert et demander des capotes gratuites. Ils auront une boîte de capotes totalement gratuite.
Si tout s'arrête, alors je te le souhaite pas, mais tu vois, si tout s'arrête pour toi ou pour moi demain, en fait, je pense que tous les deux, on se retournera, on se dira en fait ce que j'ai. Enfin, cette
moi,
partie-là.
J'ai fait ça.
Ouais, cette partie-là.
Ah, bien sûr.
Cool, tu vois.
Voilà, si demain je passe sous un autobus et qu'il me reste encore un soupçon de lucidité, je vais dire bah, putain, je suis arrivé à mon truc.
Mais tu vois, je pense que c'est pour ça qu'on le fait. Pour se dire.
Ça et la construction de ma maison de campagne qui est très jolie et à l'ancienne. Parce que ça reste.
Ben ouais. Mais du coup, c'est peut-être l'héritage, tu vois. La réponse, c'est ça. C'est
ouais, alors moi, je suis contre l'héritage.
Non, mais de laisser.
Ah oui, l'héritage, oui.
Qu'est-ce qu'on va laisser sur.
Voilà. Oui. Ouais, super. Bah, écoute, moi, je suis ravi. Donc, je rappelle quand même que ça s'appelle le Wanted Café, que c'est
70 rue du Faubourg
Saint-Martin. 70 rue du Faubourg Saint-Martin. Et que ce garçon est joignable sur
LinkedIn, voilà. Instagram.
Et on rappelle ton nom, Christian.
Delaché,
D-E-L-A-C-H-E-T. Merci beaucoup.
Bah, merci, Christophe.
Bah, je
merci de donner de la visibilité.
Et restons suspendus.
Bah, exactement.
Salut.
Merci.
Et je chante même. De Chavannes cherche copains. Des copains. De Chavannes cherche copains.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.